France Culture.
Et le journal vous est présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous.
Et l'on commencera avec un épisode de chaleur record.
Oui, Paris et sa banlieue vont voir rouge toute la journée comme une bonne partie de la France, au point que de nombreuses écoles resteront fermées faute d'investissements nécessaires à la seule rénovation énergétique des bâtiments scolaires.
Rachida Dati, elle aussi, a vu rouge hier.
Les députés ont rejeté dès le début des débats sa réforme de l'audiovisuel public. Pour autant, on le verra, le texte n'en a pas terminé avec son parcours législatif.
À suivre également la condamnation en appel ce matin de Boualem Sansal à 5 ans de prison.
Il reste à présent un espoir pour l'écrivain franco-algérien, une éventuelle grâce présidentielle. Nous serons par ailleurs à Jérusalem après qu'une nouvelle frappe de l'armée israélienne a fait 41 morts hier dans un café internet de l'enclave palestinienne.
Et enfin en Thaïlande, l'avenir de la première ministre s'écrit désormais en pointillé.
La cour constitutionnelle l'a suspendue ce matin. Nous serons à Bangkok pour détailler cette nouvelle crise dans le royaume. Chaleur partout, fraîcheur nulle part depuis hier. Une canicule persistante s'est abattue sur le sud de l'Europe et notamment donc en France avec une ampleur géographique jamais vue. Un phénomène appelé toutefois à se reproduire a priori sous l'effet du réchauffement climatique. Alors le pic de cet épisode suffocant, précoce et exceptionnel par sa durée est attendu aujourd'hui. 16 départements sont d'ores et déjà en vigilance rouge, parmi eux tous ceux d'Île-de-France, mais aussi l'Aube, Lyon, la Vienne et encore la région centre à l'exception de l'Eure-et-Loir. Enfin, 68 autres départements restent, eux, en vigilance orange. Et pour faire face, les collectivités s'adaptent comme elles le peuvent. Des restrictions de circulation ont parfois été mises en place. Un forfait anti-pollution à 4 euros la journée a, par exemple, été instauré dans les transports publics franciliens. L'agglomération du Grand Poitiers a, elle, opté pour la gratuité des piscines dont elle a la gestion. Et puis, plusieurs villes ont choisi de fermer partiellement ou totalement les écoles. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Quelques 1350 établissements au total sont concernés pour cause de locaux inadaptés, de quoi forcément relancer les polémiques sur les coupes budgétaires récentes du fonds vert censé contribuer au financement du plan de rénovation du bâti scolaire tel que promis par Emmanuel Macron, c'était en septembre 2023.
Oui, initialement, le fonds vert prévoyait, Thomas, 2,5 milliards d'euros par an d'aide, sauf que cette année, il a été divisé par deux, en sachant que la part destinée au renouvellement des écoles est de 500 millions d'euros par an sur 40 000 écoles. Vous l'imaginez bien, cela ne fait pas grand-chose. Résultat, depuis le début de l'année seulement, 65 écoles en France ont pu bénéficier d'une aide pour réaliser des travaux pour lutter contre le réchauffement dans les classes. Résultat, beaucoup de ces communes, eh bien, ont dû puiser sur leurs fonds propres, à l'image de la commune de Châtillon, dont l'adjoint Omer et Antoine Johen.
Dans ma commune qui compte 13 écoles, effectivement, si le fonds vert n'augmente pas, c'est-à-dire avec une stabilisation du fonds vert, il faudrait une trentaine d'années pour rénover les 13 écoles, parce qu'une commune comme la nôtre ne peut pas se permettre de rénover chaque été une école à hauteur de 1,5 million d'euros. Donc ça nécessiterait forcément plusieurs dizaines d'années.
Résultat, l'AMF, comme les syndicats d'enseignants, sont aussi inquiets, car le projet de budget que doit présenter François Bayrou à la mi-juillet doit comporter de nouvelles coupes budgétaires qui devraient aussi, elles, concerner le fonds vert. Enfin, l'AMF demande plus de transparence de la part de l'État, mais aussi une simplification par rapport aux démarches que devraient réaliser les communes pour demander des aides, que ce soit le fonds vert ou les autres, notamment les petites communes rurales qui, elles, ont moins de moyens humains pour mettre en place ces demandes de dossiers.
Merci Hakim Kasmi. Pas encore à la retraite, François Bayrou a même gagné un trimestre supplémentaire. Mais pour combien de temps encore le Premier ministre espère échapper cet après-midi à sa 8e motion de censure depuis son arrivée à Matignon, conséquence directe de l'échec du conclave entre partenaires sociaux. Les socialistes reprochent au chef du gouvernement de ne pas mettre en discussion un texte au Parlement permettant de débattre du passage de l'âge légal de départ à 64 ans. On nous a trahis, estimait hier le patron du PS. Olivier Faure. Le reste de la gauche devrait lui aussi voter assez largement la censure, qui sans les voix du Rassemblement National n'a toutefois que peu de chances d'être adoptée. Pour autant, l'étau se resserre bel et bien aujourd'hui autour du Premier ministre, sans compter que ce vote pourrait résonner comme un premier coup de semonce avant les discussions budgétaires à l'automne prochain. Autre illustration des divisions qui agitent le bloc central hier toujours à l'Assemblée. Les députés ont rejeté le projet de loi sur l'audiovisuel public. Énième péripétie pour un texte au parcours décidément chaotique. En l'occurrence, les députés de gauche ont été rejoints de manière inattendue par ceux du Rassemblement National, mais aussi aidée en partie par les élus du socle commun, très peu présents pour l'occasion dans l'hémicycle. Cela n'empêche pas la navette parlementaire de poursuivre son chemin. Marion Ferrer, bonjour.
Bonjour.
Le texte est attendu désormais au Sénat.
Et les tractations ont commencé dès hier soir. Rachida Dati l'a martelé à la sortie de l'hémicycle. Le statu quo n'est pas une option. Mais au Sénat, il y a embouteillage. Et pour que la réforme de l'audiovisuel soit à l'ordre du jour lundi, le 7 juillet, les présidents de groupe doivent l'acter en conférence demain. La ministre pousse évidemment en ce sens. Du côté de la gauche, on ne se fait pas d'illusions, ça sera le cas, permettant ainsi au texte d'arriver rapidement en commission des affaires culturelles avec un vote au 11 juillet, date de fin de la session extraordinaire du Parlement. La gauche, PS, écologistes et communistes préparent donc leur stratégie, dépôt d'amendements et motions sont en train de se décider, mais au palais du Luxembourg, c'est la droite qui est en position de force, celle qui a déjà voté le texte en 2023. Mathieu Darrier est co-secrétaire du SNJ Radio France. Au micro France Culture d'Éric Chavroux.
On sait que le Sénat est très majoritairement pour cette loi, puisque cette loi vient du Sénat. Alors elle sera peut-être dans une version modifiée, ensuite elle reviendra à l'Assemblée. Quelle sera la loi qui sera présentée à l'Assemblée? C'est toute la question, puisqu'on sait que par exemple, les députés MoDem étaient contre cette loi telle qu'elle a été présentée de holding exécutive. En revanche, ils disaient pas non à une holding plus légère, où le Parlement garderait le pouvoir sur les nominations et garderait surtout le pouvoir sur les financements entre la radio et la télévision.
L'objectif du gouvernement est de faire revenir la réforme à l'Assemblée en septembre prochain, mais là aussi la file d'attente est déjà longue. On ignore également si Rachida Dati sera toujours présente, elle qui vise la mairie de Paris en 2026. La ministre de la Culture va devoir partir en campagne alors que son opposant socialiste, lui, vient d'être désigné, le député Emmanuel Grégoire.
Merci Marion Ferrer. Alors le vote de la motion de rejet est d'ores et déjà un sérieux revers pour la ministre de la Culture, laquelle continue malgré tout à défendre bec et ongle son projet de fusion de Radio France et France Télé. Puis, vous l'avez dit, Marion, Rachida Dati a d'autres ambitions, celle de conquérir effectivement la mairie de la capitale en 2026. Elle devra affronter donc Emmanuel Grégoire, désigné hier par les socialistes parisiens pour être leur candidat. Une victoire en forme de revanche pour le député ancien bras droit Dan Hidalgo, tombé depuis en disgrâce, et un désaveu donc pour la maire sortante qui avait désigné le sénateur Rémi Féraud comme son dauphin. Enfin, précisons qu'Emmanuel Grégoire, comme ses concurrents d'ailleurs, avait exclu une alliance avec LFI, contrairement donc à l'écologiste David Béliard, qui selon un récent sondage resterait aujourd'hui le candidat le mieux placé à gauche face à Rachida Dati. Députés et sénateurs réunis à huis clos hier ont trouvé un accord en commission mixte paritaire sur une version maximaliste de la loi dite Duplon, comprenant de très nombreux reculs écologiques, parmi lesquels la réintroduction pour une durée dérogatoire de 3 ans d'un pesticide interdit. À présent, le vote favorable de la Chambre haute qui penche à droite ne fait aucun doute. Celui des députés, en revanche, est un peu plus incertain, même si l'addition des voix du RN, des LR et des macronistes semble dessiner une majorité pour l'adoption de ce texte réclamé par le premier syndicat agricole FNSEA. Quand la santé libérale descend dans la rue, médecins, kinés, dentistes, pharmaciens, initiés par 13 organisations syndicales au total, un large mouvement de contestation interprofessionnelle a choisi de protester aujourd'hui contre le plan d'économie du gouvernement qui prévoit de reporter à l'an prochain les hausses de tarifs initialement prévues au 1er juillet pour certains spécialistes. Le verdict est tombé. Boualem Sansal a donc été condamné ce matin en appel à 5 ans de prison, soit la même peine qu'en première instance. Alors cela fait plus de 7 mois déjà que l'écrivain franco-algérien âgé de 80 ans et atteint d'un cancer est emprisonné pour atteinte à l'unité nationale. Et son ultime espoir, Omar Waman, c'est donc d'obtenir à présent une grâce présidentielle.
Ce verdict n'est pas une surprise pour les proches de Boualem Sansal ainsi que pour les autorités françaises qui s'attendaient à une telle sentence de la part de la justice algérienne. Rappelons que l'écrivain franco-algérien avait déjà été condamné en mars dernier, notamment pour des déclarations aux médias français d'extrême droite Frontières, où il estimait que l'Algérie avait hérité sous la colonisation française de territoires appartenant jusque-là au Maroc. Et en appel, mardi dernier, le parquet d'Alger avait requis une peine plus lourde, soit 10 ans de réclusion et environ 6 600 euros d'amende. Depuis des mois, la France réclame un geste d'humanité. Compte tenu de l'âge et de l'état de santé de Boualem Sansal, Alger pourrait accéder à cette requête samedi prochain, le 5 juillet, date anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. C'est le maigre espoir entretenu par les soutiens de l'écrivain, mais également par le Quai d'Orsay, qui espère ce geste en signe de main tendue pour mettre fin à cette crise diplomatique sans précédent entre les deux pays.
Autre saga judiciaire en Thaïlande, cette fois-ci, elle concerne la famille Shinawatra qui polarise la vie du pays depuis maintenant plus de 20 ans. Ce matin, la Cour constitutionnelle a suspendu la première ministre, l'héritière de la dynastie, ouvrant ainsi une nouvelle période d'incertitude, d'autant que le même jour s'est ouvert le procès de son père, cette fois-ci accusé lui d'avoir insulté le roi. Autant dire, Juliette Chénion, que les prochaines semaines s'annoncent déterminantes pour la survie politique du clan familial.
En effet, l'avenir de la première ministre est désormais dans les mains de la Cour constitutionnelle. Cela pourra prendre des semaines, voire des mois, pour décider si Paetongtarn Shinawatra a manqué d'intégrité en désignant ouvertement un général de l'armée thaïlandaise comme opposant. Une bourde commise pendant un échange téléphonique il y a 2 semaines avec l'ancien leader cambodgien Hun Sen. Ce dernier, ancien allié du camp Shinawatra, a décidé de faire fuiter l'appel, ce qui a plongé la première ministre, déjà impopulaire, dans une crise politique. Depuis, le deuxième plus gros parti de la coalition gouvernementale a quitté le navire et 10 000 manifestants, notamment pro-royalistes, ont demandé la destitution de la première ministre ce week-end. Le pays s'enfonce donc dans l'instabilité. Pour le moment, le risque de coup d'état militaire, qui a déjà renversé par le passé 2 membres du clan Shinawatra, semble assez faible. Mais cette séquence devrait à coup sûr renforcer le pouvoir militaire, affaibli depuis 2 ans, avec l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement civil.
C'est aujourd'hui que la Cour suprême de Pologne doit trancher sur la validité de l'élection présidentielle remportée le mois dernier par un candidat nationaliste, plus exactement sur le bon déroulement du scrutin face aux très nombreuses plaintes qui ont été déposées, sauf que des doutes existent sur la légitimité même de la chambre de la Cour chargée de l'affaire. Le Danemark a pris ce matin la présidence tournante de l'Union européenne avec la sécurité du vieux continent comme priorité et en particulier la mise en œuvre de l'accélération des hausses de dépenses récemment décidée au sein de l'OTAN. La rapidité avec laquelle s'est achevée la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran avait ravivé l'espoir d'un possible arrêt des combats à Gaza, en vain. Chaque jour ou presque, des Gazaouis affamés perdent la vie en tentant désespérément d'approcher l'un des 4 centres de distribution alimentaire. En moins d'un mois, 19 incidents impliquant des tirs de l'armée israélienne ont été recensés, bilan plus d'un demi-millier de Palestiniens tués et 4000 autres blessés. Hier encore, les secouristes ont fait état de 41 morts dans un café Internet, et comme souvent pour justifier un tel massacre, l'armée israélienne assure que sa frappe meurtrière visait plusieurs terroristes du Hamas. Les précisions depuis Jérusalem de Thibault Lefebvre.
Des cartes à jouer et des verres brisés baignent dans des mares de sang encore rouge vif. Les corps déchiquetés sont recouverts de couvertures. Parmi les 41 morts comptés par le directeur de l'hôpital Al-Shifa situé à proximité, une jeune fille, Sama Abou Namous, elle avait tout juste 18 ans. Son oncle témoigne au micro du journaliste Rami Al-Maghari.
Sama est allée retrouver une amie au café Al-Baka. Le missile a frappé juste après son arrivée. Elle est morte sur le coup. Toutes les deux devaient étudier ensemble. Sama et sa famille venaient d'arriver à Gaza en provenance de Beit Laïa dans le nord. Son frère, qui l'accompagnait hier, a été blessé. Mais grâce à Dieu, il est dans un état stable.
Le drame d'hier après-midi a désormais un nom dans l'enclave, le massacre de la cafétéria, parce qu'il a touché un lieu populaire en bord de mer, pas très loin du port de la ville de Gaza. La journaliste Salma Kadoumi connaît très bien ce café.
Al-Baka, c'est un refuge pour les journalistes et les étudiants. Il n'y a pas de connexion Internet à Gaza. Alors les journalistes et les étudiants viennent pour mettre en ligne des vidéos. Les forces d'occupation n'ont aucune excuse pour avoir frappé cet endroit. C'est encore un massacre que nous subissons.
Israël assume avoir frappé la cafétéria. Son armée précise avoir ciblé des terroristes, mais en prenant, dit-elle, des mesures pour limiter les pertes civiles. Une enquête est en cours.
Les centaines de barrages et de barricades qui avaient été dressés hier soir à Belgrade ont été levés tôt ce matin. Hier, quelques 140 000 manifestants anti-gouvernementaux se sont rassemblés dans le centre de la capitale serbe pour réclamer des élections anticipées. Le mouvement anticorruption appelle malgré tout à de nouvelles mobilisations après l'arrestation la veille de 77 personnes. Enfin, en Turquie, là-bas, ce sont plus de 120 membres de la municipalité d'Izmir, la 3e ville du pays, l'un des bastions de l'opposition, qui ont été arrêtés ce matin pour corruption. corruption. Une opération qui rappelle étrangement celle menée il y a un peu plus de 3 mois contre la municipalité d'Istanbul. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi ensoleillé sur l'ensemble du territoire avec des températures caniculaires, donc 35 à 40 et même jusqu'à 42 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Antoine Bochet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.